Allume la science, la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'UM, Université de Montpellier et de ses partenaires. Nous sommes le 24 janvier, le premier mois de cette nouvelle année est à peine écoulé et pourtant, si vous êtes comme moi, les bonnes résolutions sont déjà un très 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 lointain souvenir. Savez-vous d'ailleurs quelles sont les résolutions les plus courantes chez les Français? Allez, Aline, tu t'y colles d'après toi?
Reprendre le sport?
Ouais, bravo, c'est la première en effet. Donc on retrouve le triptyque original, hein, faire du, ouais, très original, faire du sport, mieux manger et bien sûr perdre du poids. Alors on peut parler du diktat de la mode, de la tyrannie du corps, etc. Mais peut-être aussi que cette obsession de l'alimentation dans nos sociétés modernes trahit l'intuition d'une forme de déséquilibre évolutif. On connaît les effets délétères de nos régimes alimentaires sur nos organismes. Le lien entre alimentation et cancer, par exemple, n'est plus à démontrer. C'est triste, mais plus vous mangez et a priori plus vous risquez de nourrir votre cancer. Aujourd'hui, l'oncologie évolutive s'intéresse de près à ces liens entre disponibilité alimentaire et tumorigénèse. Et pour savoir si cette corrélation n'existe que chez les mammifères ou si c'est l'homme partage aussi ce trait avec des espèces très différentes de lui, la science a fait ce qu'elle sait faire, expérimenter et comparer. On en parle avec notre invitée. Elle est première auteure de cette étude intitulée « L'impact de la disponibilité alimentaire sur la tumorigénèse est conservé au cours de l'évolution ». Donc cette étude, elle a été publiée dans la revue Scientific Report, Sophie. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Allume la science.
Merci beaucoup.
Donc, vous êtes chercheuse au laboratoire MIVEGEC pour maladies infectieuses et vecteurs, environnement, génétique, évolution et contrôle, mais aussi au CRIC, le centre de recherche écologique et évolutif sur le cancer. C'est bien ça?
Oui, tout à fait. Donc, le CRIC, c'est une équipe du MIVEGEC, hein, donc qui fait partie plus généralement du CNRS.
Alors, je vous ai un petit peu tourné la tête. J'aime bien, en général, interroger. Il y a des petites inapproximations dans mon lancement, c'est ça?
Non, c'était très très bien. J'ai adoré l'enchaînement, vraiment super. Non, très bien.
Merci, merci. Alors, elle reprendrait bien un peu de beurre sur ses frites avec moi tout au long de cet entretien, Aline Perriot.
J'adore l'enchaînement. Bonjour.
En deuxième partie d'émission, Bertrand Muller, chercheur au LEPS, le laboratoire d'écophysiologie des plantes sous stress environnementaux, nous fait découvrir PhénoArche, une plateforme de phénotypage dédiée à l'analyse des déterminismes génétiques de la réponse des plantes à la sécheresse, à la température ou à la lumière. Enfin, pour notre interview de dernière minute, c'est Agnès Pesentier, responsable à la culture scientifique de l'UM, qui vient nous présenter ses vœux et vous annoncer la reprise du Bar des sciences avec une prochaine conférence le 25 janvier autour de la question « Faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle ?» À la console aujourd'hui, c'est Alice Rollet. Bonjour Alice. Et Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55, 54...
Donc, Sophie Tissot, votre étude, elle porte sur le lien entre alimentation et tumorigénèse. Alors, peut-être que pour commencer, vous pourriez nous expliquer comment elles se forment, les tumeurs.
Alors, en fait, les cellules tumorales, c'est des cellules qui sont initialement saines et qui vont perdre cet esprit de coopération entre les cellules, qui vont arrêter de coopérer avec les cellules alentour. Et elles vont commencer à proliférer de manière anormale. Et c'est là qu'elles vont former une masse qu'on va appeler une tumeur, qui peut être bénigne ou maligne, donc classifiée sur le fait qu'elle peut être invasive ou non.
Alors, Lucie en a parlé dans son lancement. Donc, vous travaillez aussi au Centre de recherche écologique et évolutive sur le cancer. En quelques mots, parce que c'est quelque chose qu'on connaît peut-être moins bien, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi elle consiste, cette approche évolutive du cancer ?
Oui, tout à fait. Cette approche, elle permet de vraiment essayer de voir le cancer, non pas forcément comme une maladie, mais aussi par le prisme des sciences de l'évolution. Donc essayer de le voir comme une entité évolutive, de savoir par quelle loi elle va être régie et donc d'essayer d'identifier des phénomènes encore inconnus.
Alors, l'une des principales hypothèses de cette approche évolutive, c'est que l'augmentation des cancers chez l'homme est liée à une inadéquation entre nos adaptations aux modes de vie ancestraux et l'évolution rapide des sociétés modernes. En gros, on peut dire que notre alimentation a changé beaucoup trop vite?
Oui, on peut le dire. Donc c'est mismatch évolutif, hein, ce décalage trop grand entre le passé et le monde actuel, donc le passé pour lequel on est adapté, pour lequel on est évolué, pour lequel on a aussi des défenses. Avec ce changement trop brutal, trop rapide, aussi bien sur la qualité, mais aussi sur la quantité, parce que la qualité donc, a changé. Hein. On a des aliments qui sont beaucoup plus riches, beaucoup plus transformés, auxquels notre corps n'est pas vraiment habitué, hein, puisque pendant des années, on s'est nourri de baies, de viande, de choses relativement saines qui ne plairaient pas maintenant aux enfants. On a ce décalage qualitatif, mais aussi quantitatif, parce que sur les dernières décennies, la quantité de nourriture ingérée par repas et la fréquence des repas a drastiquement augmenté. Et ça mène à de nombreux problèmes de santé, dont certains qui incluent des tumeurs et des cancers.
Alors, on parle de ces problèmes et de ces conséquences chez les humains, hein, qui ont modifié leurs habitudes alimentaires, mais comme les animaux, même les animaux sauvages, ils se nourrissent aussi de déchets humains, ils consomment eux aussi des aliments transformés avec lesquels ils n'ont pas évolué. Est-ce que ça a le même effet sur eux ?
Alors, a priori, j'aurais envie de dire que oui, parce qu'effectivement, des loups qui vont manger des Big Mac, ce n'est pas forcément une bonne chose. Ce n'est pas quelque chose de très naturel, du moins. Mais par contre, on a vraiment du mal à estimer l'effet sur la faune sauvage, puisque bah, des animaux, pour tracer en fait, tout ce qui est cancer et tumorigenèse, voire même maladie en faune sauvage, c'est extrêmement compliqué, parce que dès qu'un animal est affaibli, il va être éliminé par la prédation ou même la compétition, il peut rapidement mourir de faim. Donc c'est assez difficile à estimer. Par contre, pour les animaux de compagnie, c'est des choses qu'on voit assez régulièrement dans les zoos. Voilà, c'est pour ça que l'alimentation, c'est souvent quelque chose de très important pour ces animaux, parce que ça peut entraîner quand même pas mal de problèmes de santé.
Pardon. Donc les êtres humains, en gros, dès qu'ils ont une plus grande disponibilité alimentaire, ils mangent trop. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas capables de se réguler ?
Et bien ça, la réponse est encore une fois dans l'évolution. Faut savoir qu'ancestralement, cette addiction, surtout au sucre, c'est parce qu'en fait, c'est une denrée qui est extrêmement rare en milieu naturel. Et ce côté addictif, ce plaisir qu'on ressent à manger du sucre, ça poussait nos ancêtres à rechercher ces denrées toujours plus rares, mais très énergétiques. Le problème, c'est que maintenant, le sucre, ben, on en a à tous les coins de rue, et on a toujours ce mécanisme qui nous pousse à en chercher plus. Donc on n'arrive pas vraiment à se réguler pour le moment. Peut-être que ça viendra.
Et chez les animaux, on voit des processus de régulation ou alors ils sont pareils. Enfin, moi, je vois mon chien, oui. S'il y a à manger, il mange.
Exactement. Je pense que là, alors je pourrais pas dire pour l'ensemble des animaux, mais effectivement, on se base sur les animaux domestiques. C'est pour ça qu'il existe des gamelles anti-gloutons ou ce genre de choses pour éviter que nos animaux mangent. Et on voit énormément de cas d'obésité sur les animaux domestiques. En milieu naturel, ça dépend de leur accès aux ressources, de la fréquence à laquelle ils vont avoir accès à ces aliments transformés. Donc pour la majorité, ça semble être encore assez équilibré. Mais à l'avenir, on ne sait pas ce que ça pourrait donner.
Alors, cette étude, vous l'avez menée chez deux espèces animales bien différentes. Alors, le poisson zèbre et l'hydre. Alors, juste pour commencer, est-ce que vous pouvez décrire un peu ce que c'est qu'une hydre ? On dit une hydre, c'est ça ?
Oui, une hydre, tout à fait. Donc l'hydre, c'est globalement une cousine de la méduse. C'est un petit polype qui fait 1 cm, 1,5 cm, et qu'on va retrouver donc, de façon assez commune dans les eaux douces, en milieu tempéré, donc ça vit accroché à des petites feuilles, des petites branches, des plantes aquatiques. Et on en retrouve, par exemple, tout autour de Montpellier.
Et pourquoi vous avez choisi ces deux animaux-là, le poisson zèbre et l'hydre ?
Alors, on a choisi l'hydre, puisqu'elle présente l'avantage d'avoir, donc, dans l'arbre des animaux, un branchement assez basal. Et ça a l'avantage, si on montre qu'une réponse est présente chez l'hydre, elle a de grandes chances d'être partagée par l'ensemble des autres animaux qui viennent, entre guillemets, après elle. Et puis bon, on a aussi une lignée qui développe des tumeurs spontanément, donc qui se transmettent, et d'autres spontanées, donc ça permet de le tester.
Bon candidat, ouais.
Exactement. Et les poissons zèbres, donc c'est des vertébrés, à la différence des hydres, hein, qui sont des invertébrés, donc ça permet de voir si la réponse qu'on observe chez l'hydre, on la conserve aussi au passage chez les vertébrés. Et en plus de ça, bah, le poisson zèbre, c'est un modèle qui est extrêmement utilisé en oncologie. Très bon modèle pour les cancers humains. Et c'est deux modèles qui sont faciles à manipuler en laboratoire. Parce que ça compte. On aurait pu le faire sur des éléphants, mais ça aurait pris quand même beaucoup plus de place.
Alors, donc, vous avez utilisé différentes catégories, je ne sais pas si c'est le mot, mais si, catégories d'animaux à chaque fois. Donc, pour l'hydre, vous avez des hydres sauvages et des hydres dites de la lignée de Saint-Pétersbourg. Donc, c'est quoi déjà la lignée de Saint-Pétersbourg et pourquoi avoir deux catégories ?
Alors, la lignée de Saint-Pétersbourg, c'est une lignée d'hydres qui a été isolée dans un laboratoire allemand il y a plus de 15 ans. et qui présente une tumeur qui se transmet verticalement, donc du parent à l'enfant. Alors on parle plutôt de bourgeon, parce que c'est une reproduction qui est asexuée chez l'hydre, comme un fraisier par exemple avec les stolons. Et le fait d'avoir ces tumeurs transmissibles, ça fait que quand on récolte les bourgeons, ils n'ont pas de tumeurs qui sont apparentes pendant à peu près un mois, mais ils vont développer des tumeurs après. Donc en fait, ça nous permet de tester des choses sur la phase qu'on appelle pré-pathologique, donc avant l'apparition des tumeurs. Et ça, c'est extrêmement rare d'avoir la possibilité de tester sur un animal en devenir tumoral, puisque souvent, quand on sait qu'il y a une tumeur, c'est parce qu'on la voit. Et donc pour les hydres sauvages, là, l'idée c'était d'avoir des individus qui n'avaient pas de tumeur et de savoir si les régimes alimentaires qu'on allait leur imposer allaient être suffisants pour favoriser l'émergence de tumeurs.
Alors, et donc le poisson zèbre, vous avez deux catégories également. Donc vous parlez là aussi d'une souche tumorale et d'une souche non tumorale.
Oui. Alors en réalité, on a aussi la souche non tumorale sur les hydres. Oui. Et en fait, c'est celle qui nous permet, donc comme pour les poissons zèbres, d'avoir un contrôle. Pour savoir si ce qu'on observe, par exemple, un effet, ça aurait pu être un effet sur la survie ou sur la fécondité, on a toujours un contrôle en science. C'est la base de la base, c'est hyper important. Ça nous permet de savoir si l'effet qu'on observe, c'est dû à nos tumeurs, c'est dû à nos régimes ou encore à d'autres facteurs pour éviter toutes sortes de biais.
D'accord, donc on a trois types d'hydres. Hydre ouais. Sauvage, hydre en gros de laboratoire mais avec des tumeurs ouais. Et hydre de laboratoire sans tumeurs.
Exactement.
Ok, et chez les poissons zèbres ?
Les tumoraux et les non-tumoraux.
Très bien.
Alors, dans la méthode pour nourrir tout ça, donc vous avez utilisé quatre types de régimes alimentaires, un riche et fréquent, un avec une forte abondance et une intermittence de nourriture, un avec une faible abondance mais une alimentation fréquente, et une alimentation faible et intermittente. Et, ben, en pratique, vous leur avez donné quoi et comment à manger à ces animaux?
Alors, pour les hydres, elles sont classiquement nourries avec des artémies. Donc, c'est des sortes de toutes petites crevettes, c'est la nourriture des flamants roses en Camargue. Donc c'est les techniques d'élevage assez classiques. Et pour ces quatre régimes, donc pour le très riche, ça a été nourri à volonté 5 fois par semaine, donc chaque jour travaillé de la semaine. Pour un des régimes intermittents, donc un des régimes intermédiaires, on les a nourris à volonté, mais qu'une seule fois par semaine. Et le deuxième intermédiaire, ça a été nourri tous les jours, mais qu'avec 5 artémies. Et le dernier, donc le régime le plus pauvre, ça a été seulement 5 artémies une fois par semaine. Donc ça, c'est pour les hydres. Et pour les poissons zèbres, globalement, ça a été à peu près la même chose avec de la nourriture sèche, donc qui est classiquement utilisée pour le nourrissage des poissons zèbres, et des artémies, mais cette fois-ci en enrichissement. Pour des raisons éthiques, il faut enrichir l'environnement de ces poissons.
Et donc, alors, les résultats. Donc, chez les poissons zèbres, comme chez les hydres, vous avez trouvé qu'une suralimentation fréquente favorisait l'émergence des tumeurs. Donc, c'était attendu, j'imagine, un peu comme résultat.
Oui. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui a déjà été, par des corrélations, ça a déjà été observé chez l'homme, mais c'est très, très bien connu chez les modèles classiques de tumorigenèse, donc les rongeurs, les rats et les souris.
Alors, pareil chez le poisson zèbre.
Ouais,
donc, pour qu'on comprenne, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que finalement, avec une faible disponibilité alimentaire, les tumeurs ne se développent pas? Et c'était une image de dire qu'on nourrit nos tumeurs, mais finalement...
C'est l'idée. Vraiment, l'image est bonne. Puisque ce qu'il faut voir, c'est que les cellules tumorales, elles ont besoin d'énormément d'énergie pour proliférer. Et en fait, quand on vient réduire la disponibilité alimentaire, on vient réduire la dose d'énergie apportée au corps. Sauf que les cellules tumorales, elles ne sont plus vraiment capables de survivre. Elles ont tout investi dans la prolifération. Et dès l'instant où, en fait, elles n'ont plus d'énergie pour proliférer, en fait, tout ce développement, il va mourir dans l'œuf, en quelque sorte.
Et du coup, si on peut comparer avec les régimes que vous avez mis en place, il y en a un qui pourrait s'apparenter à un jeûne intermittent et l'autre à une restriction calorique quotidienne. Est-ce que vous pouvez rappeler en quoi c'est le parallèle avec un jeûne intermittent? Est-ce qu'il y en a un qui est plus efficace que l'autre?
Alors, le jeûne intermittent, c'est simplement l'idée d'espacer ses repas, donc sans forcément toucher à la quantité de calories ingérées, mais surtout espacer ses repas par rapport à la restriction calorique, où la fréquence ne va pas être modifiée, mais c'est la quantité qui va être un peu réduite à chaque repas. Et nous, en fait, on a eu des résultats, alors pas criants, dans le sens où il n'y avait pas, par exemple, de dire le jeûne intermittent, c'est lui qui a mieux fonctionné, qui a conduit à moins d'apparition de tumeurs. Ça a été assez variable en fonction du modèle d'étude qu'on a utilisé. Et même au sein des hydres, par exemple, on a trois types d'hydres différentes, on n'a pas forcément eu les mêmes résultats. Et ça, c'est probablement dû au fait qu'on a des tumeurs qui sont assez différentes. Chez le poisson zèbre, c'est des tumeurs qui vont génétiquement être induites, c'est des organismes qui sont génétiquement modifiés. Et chez l'hydre, on va avoir une tumeur qui va être transmissible ou des tumeurs qui sont spontanées, donc qui ne vont pas forcément se transmettre. Et en fait, on a eu plus l'impression que nos résultats dépendaient du type de tumeur que quelque chose de très empirique où on dit c'est tout le temps le jeûne intermittent qui fonctionne.
Et parmi vos résultats, vous avez aussi observé une forte mortalité dans le groupe d'hydres à faible abondance et à régime intermittent. Est-ce que vous savez pourquoi ?
Ils sont morts de faim.
Oui, malheureusement, je dois admettre que oui. 5 artémies une fois par semaine, ce n'était pas suffisant, surtout que les hydres, c'est des chasseuses passives. Hein, les tentacules servent de filet. Donc si les artémies ne nagent pas en direction des tentacules, ça nous arrivait que quand on nettoyait les puits dans lesquels on les élève, on récupère les 5 artémies. Donc ça s'apparentait au final plus à de la malnutrition qu'à de la restriction ou du jeûne. Voilà.
Donc vous nous avez expliqué que les cellules, quand elles ont moins d'énergie, finalement, elles arrêtent de proliférer. On fait une sorte de purge, c'est ça, les cellules précancéreuses.
Oui, tout à fait.
Mais une fois qu'elles sont installées, ces cellules cancéreuses, est-ce que ça fonctionne quand même ?
Ah, malheureusement, on n'a pas obtenu les mêmes résultats, puisqu'on a réussi à appliquer donc, nos régimes avant l'apparition des tumeurs, mais aussi après, pour voir justement cet effet sur la progression. Et là, ce qu'on a obtenu comme résultat, c'est qu'effectivement, la suralimentation, ça va conduire à une augmentation de la taille des tumeurs. Par contre, quand c'est une restriction alimentaire ou un jeûne intermittent, là, on n'a pas d'effet curatif. Donc, ça, on n'a pas vu des tumeurs disparaître. Mais simplement, il a semblé que la progression était ralentie. Donc, avec des tumeurs qui étaient un peu moins grosses comparé aux tumeurs produites dans les régimes de suralimentation.
Mais justement, je reviens sur l'évolution. On parle de plus grand accès à la nourriture, mais au cours de l'évolution, le fait d'avoir eu accès à plus de nourriture, à pouvoir manger à sa faim plus souvent, ça a eu aussi des effets positifs sur d'autres paramètres de la santé. Est-ce qu'il n'y a pas un équilibre justement comme ça, y compris chez les animaux ?
Oui, tout à fait. En fait, nous, on a observé qu'une seule facette, mais il faut voir qu'il y a d'autres choses qui sont à prendre en compte. Et on sait, par exemple, que chez certains poissons, l'immunité va être dépendante de la masse grasse. Un poisson qui va être trop maigre, qui ne va pas avoir de masse grasse, l'immunité ne va même pas se déclencher. Donc, en fait, c'est une sorte d'équilibre qu'il faut trouver entre trop de masse grasse et pas assez de masse grasse.
Et oui, parce qu'on peut se dire, justement, si on reprend donc un des organismes malades du cancer, si on réduit son régime, est-ce qu'il risque pas justement de moins réussir à se défendre ?
Exactement, c'est l'une des hypothèses. L'organisme, il est déjà soumis à un stress qui est le cancer. Si on lui rajoute un stress alimentaire, ça fait peut-être un peu beaucoup. Surtout que on suppose que les tumeurs, quand elles se développent, elles vont se diversifier. Et en se diversifiant, elles vont acquérir différentes adaptations, et notamment dont certaines qui vont probablement les aider à survivre au stress alimentaire. Donc peut-être qu'en plus de pas attaquer la tumeur, ça va juste affaiblir l'hôte et pas du tout être efficace.
Donc ces résultats, alors ça vous donne des billes sur le côté évolutif. Est-ce que ça vous permet de faire des préconisations, par exemple, sur le cancer humain, on va dire ?
Alors non, absolument pas. Cette étude, elle a vraiment vocation, donc c'est de la science fondamentale, hein, elle a vocation à comprendre le cancer sous un biais évolutif. Et non pas du tout à faire de préconisations, hein, surtout que l'OMS elle-même, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, a pas du tout statué sur l'effet des régimes alimentaires sur les personnes atteintes de cancer. Donc nous, l'idée, c'était vraiment de comprendre comment le cancer agit, comment il se développe, et pouvoir faire des prédictions, mais plutôt dans un cadre écologique, en se disant, l'homme modifie son environnement. Il va, par exemple, modifier la disponibilité en nourriture, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, et quelles conséquences ça pourrait avoir sur la faune sauvage. Donc ça, c'était un premier aspect. Et l'aspect plus évolutif, c'est que en s'attaquant aux mécanismes évolutifs des cancers, ça nous permet potentiellement d'identifier des mécanismes qui seraient partagés par tous les cancers. Puisque comme ils ne se transmettent pas, chaque cancer est une entité indépendante les unes des autres. Donc pour essayer de cibler tous les cancers d'un coup, s'attaquer aux mécanismes évolutifs, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant.
Merci beaucoup. C'était passionnant, Sophie Tissot. Et revenez quand vous voulez dans Allume la science pour nous raconter la suite.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup.
Et on passe maintenant à notre séquence reportage. Donc, cette semaine, retour à M3P sur le campus de la Gaillarde. Et c'est Bertrand Muller, chercheur au LEPS, donc le laboratoire d'écophysiologie des plantes sous stress environnementaux, qui nous embarque dans Phénoarche, une plateforme de phénotypage dédiée à l'analyse des déterminismes génétiques de la réponse des plantes, je l'ai dit, donc à la sécheresse, la température et à la lumière. Alors, on se trouve sur une des trois plateformes M3P, c'est bien ça ?
Oui, M3P, ça veut dire... Alors désolé pour la formulation anglaise, ça veut dire Montpellier Plant Phenotyping Platforms. Alors le phénotypage, pour faire simple, on va dire que c'est le pendant du génotypage. Le génotypage, tout le monde comprend que c'est la carte génétique. On sait que maintenant, c'est de plus en plus facile d'avoir accès au génotype d'un organisme. Et les plantes font pas exception. Hein. On sait séquencer des génomes végétaux depuis les années 2000. Pour autant, ça ne nous renseigne pas sur ce qu'elles font dans la vie, est-ce qu'elles sont sensibles, pas sensibles. Est-ce qu'elles font des gros grains, des petits grains, etc., etc. Quelle est leur histoire aussi? Et c'est là où on intervient avec le phénotypage, c'est-à-dire qu'on va caractériser leur comportement, leur réponse à l'environnement, c'est ça en premier lieu qui nous intéresse, mais on pourrait appliquer le vocable phénotypage à tout type de, je dirais, manifestation d'une caractéristique d'une plante donnée dans un environnement donné. En tout cas, celle-ci s'appelle Phénoarche parce que dedans, il y a phéno comme phénotypage et arche parce que c'est plutôt une plateforme qui est dédiée à l'analyse de l'architecture des plantes. En fait, une fois qu'elles ont... Alors, on ne voit pas là actuellement, mais j'ai dit tout à l'heure qu'on avait des convoyeurs. Donc ça veut dire que les plantes, elles sont en mouvement. On peut les mettre en mouvement pour que chaque jour, elles aillent se faire arroser à un niveau de stress qu'on aura choisi. Et chaque jour, on peut les amener dans des petites cabines. Alors les grands ensembles blancs là, que vous avez derrière vous, qui sont des sortes de photomatons. Et tous les jours, elles vont aller se faire photographier dans le photomaton et puis revenir. Et ensuite, derrière, on a tout un process d'analyse de l'image pour en tirer des conclusions sur leur architecture, comme je disais, leur croissance, leur développement, etc., etc.
Alors, la première question que je vais vous poser, puisque les auditeurs doivent l'entendre, on entend un bruit autour de nous. Qu'est-ce que c'est ?
Alors là, c'est pas de la haute technologie, c'est simplement des aérothermes. Donc, ça, en fait, on régule le climat dans la serre dans laquelle on se trouve pour pouvoir exposer les plantes, les soumettre à des contraintes environnementales qu'on maîtrise. Autant qu'on peut, en tout cas. On est dans une serre, donc on est aussi dépendant des aléas du climat qu'il y a à l'extérieur. Mais on essaye de réguler au maximum, en particulier la température. Et c'est ça qu'on entend, c'est la régulation de la température.
Alors, je vais décrire un petit peu ce qui se trouve autour de moi. Donc on est effectivement dans une grande serre de, je ne sais jamais évaluer, 350 mètres carrés. Ok. Plein de petits pots blancs sur des racks. Qu'est-ce que vous faites pousser ici ?
Alors là, actuellement, on voit du maïs, mais en fait, dans cette serre, on peut y faire pousser à peu près tout type de plantes. Dès lors que qu'elles rentrent raisonnablement, vous voyez que le plafond est quand même assez haut, on peut monter jusqu'à 3 mètres, donc on y a fait pousser ici les céréales habituelles, hein, celles qui sont à la base de la diète mondiale, c'est-à-dire le riz, le blé, le maïs. Hein, c'est les trois champions. Et puis aussi, on y a vu des plantes du sud, on a vu du coton, on a vu des plantes ligneuses, comme des pommiers par exemple, de la vigne. On est dans une région où la vigne c'est super important, on peut mettre des vignes de taille relativement raisonnable.
Alors j'ai dit qu'il y avait beaucoup d'électronique, effectivement on a l'impression qu'elles sont placées sur des petits tapis, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert ?
Ça s'appelle des convoyeurs en fait, hein. C'est pas une originalité de notre domaine, on peut trouver ça dans n'importe quelle usine dans laquelle il y a des choses à faire un peu à la chaîne, et ici on fait du travail à la chaîne sur les plantes parce qu'on va les sonder, en tout cas leur faire des misères. Notamment, on va les exposer à des stress. Et le stress qui nous intéresse le plus particulièrement, c'est le stress hydrique, la sécheresse. Et vous comprenez bien que c'est un sujet qui intéresse évidemment la science, mais pas que la science, la société. On a besoin de mieux comprendre comment les plantes se comportent face à la sécheresse. Les outils qu'on a derrière nous permettent d'imposer à un grand nombre de plantes ce qu'on appelle des scénarios climatiques, mais c'est plutôt des niveaux de sécheresse qu'on maîtrise particulièrement bien.
Justement, vous avez parlé de scénarios, si c'est pas exactement, quelles conditions vous essayez de reproduire ?
C'est vrai qu'actuellement, avec le climat qu'on a cette année, il suffit déjà de reproduire le climat qu'on a à l'extérieur. On est déjà dans un contexte de réchauffement, on a déjà eu des coups de chaud. Vous vous rappelez, 2018, on avait eu quand même des forts accidents sur toute la végétation. Et puis les scénarios climatiques, on prend les scénarios du GIEC, plus 2 degrés, plus 3 degrés, etc., etc., de la sécheresse, donc un manque d'eau. Globalement, c'est ce qu'on prévoit dans un grand nombre de régions du globe, en particulier ici, dans le pourtour méditerranéen.
Alors, je ne vous ai pas posé de questions aussi sur les nombreuses lampes.
Elles ont plusieurs vertus. Bon, évidemment, on est dans une serre, donc on pourrait s'attendre à finalement simplement utiliser la lumière du jour. Mais on a aussi envie de pouvoir profiter de cette plateforme presque 12 mois sur 12. C'est un outil qui coûte cher, on veut vraiment l'exploiter au mieux. Donc il nous arrive de faire, comme là actuellement, on est en octobre et puis vous voyez du maïs, et ils sont tout jeunes, et ils vont continuer à grandir. On aura d'autres expérimentations en janvier, en février. On veut pouvoir travailler à peu près à tout moment de l'année. Et puis l'autre intérêt aussi, c'est qu'on complémente, hein, on apporte plus de lumière, on peut apporter plus de lumière avec les lampes que vous avez au-dessus de nous. Une raison aussi, c'est que dans une serre, il y a énormément d'ombrage. Et bien souvent, le rayonnement que vous avez dans une serre, il est beaucoup plus faible que ce qu'on peut trouver à l'extérieur. Donc il faut complémenter la lumière auprès des plantes.
On retrouvera la plateforme M3B la semaine prochaine pour un dernier épisode. Et j'accueille maintenant Agnès Pesanti, responsable de la culture scientifique à l'UM. Bonjour Agnès.
Bonjour.
Ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas vu.
Mais oui, quelques mois au moins.
Alors, vous revenez pour annoncer la nouvelle saison donc, du Bar des Sciences. C'est reparti, toujours à 20h30, toujours au Dôme. Et on commence donc jeudi avec un premier débat participatif. Sur quel thème, Agnès ?
Faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle ?
Vaste programme. Donc,
oui.
Qui seront vos invités pour cette reprise ?
Eh bien, sur cette thématique qui suscite de nombreux débats actuellement, on a la chance d'avoir quatre intervenants, tous, c'est l'ADN du Bar des Sciences, hein, tous issus de filières et de parcours différents, mais tous en mesure de nourrir le propos. Donc nous allons avoir Alain Chavagneau. Il est professeur à la faculté de pharmacie et il est responsable du master biologie santé parcours chimie médicinale translationnelle. Donc dans le cadre de ses fonctions, l'IA est vraiment un point extrêmement important. Ensuite, nous avons Mathieu Lafourcade. Il est docteur en informatique et il est chercheur au LIRM, hein, laboratoire d'informatique, de robotique et de microélectronique de Montpellier. Et puis David Morquin. Il est médecin hospitalier spécialisé en maladies infectieuses et tropicales, docteur en gestion des systèmes d'information, directeur médical d'ERIOS, donc ERIOS, c'est l'espace de recherche et d'intégration des outils numériques en santé. C'est une unité du CHU de Montpellier, donc on est ravis de l'avoir, hein, puisque l'intelligence artificielle est très très utilisée au
en
CHU,
santé, ouais.
Exactement, en santé. Et on terminera par Joseph Salmon, professeur à l'Université de Montpellier, au laboratoire de mathématiques IMAG. Il est membre junior de l'IUF et il est également récipiendaire de la chaire de recherche et d'enseignement en intelligence artificielle Camelot.
Alors la plupart de nos auditeurs connaissent certainement le principe du Bar des Sciences, on se le disait hein, en coulisses, ça fait donc combien de temps que ça existe ?
Eh bien nous fêtons cette année les 25 ans.
Ouais, donc 25 ans et on va le rappeler quand même pour les nouveaux auditeurs, donc c'est pas une conférence, c'est un débat que vous organisez, donc comment ça se passe ?
Alors il y a un thème, pour chaque soirée il y a un thème scientifique, pour lequel nous invitons bien évidemment des chercheurs ou des experts, hein, parce que ce n'est pas obligatoirement des chercheurs, ça peut être des experts du domaine. Et l'idée, en fait, c'est de les faire rencontrer le public et de provoquer un débat citoyen, un débat participatif. Donc le public est invité à poser toutes les questions qu'il souhaite poser à cette tribune d'intervenants pour chacune des soirées. L'entrée est totalement libre et gratuite.
Alors, on va profiter de ce début de saison pour raconter un tout petit peu donc comment ça se passe, le Bar des Sciences. En quelques mots, comment elle naît, cette programmation, chaque année, comment vous vous y prenez ?
Alors, chaque année, on organise ce que l'on appelle un comité éditorial, où nous invitons nos partenaires principaux, parce que la saison est élaborée en partenariat avec l'INRAE, l'INSERM et l'IRD. Mais on travaille aussi en partenariat étroit, sans que ce soit des partenaires officiels, comme justement le CHU ou d'autres gros laboratoires qui nous suivent de très très près. Tout le monde vient avec un petit panier, on dirait, de sujets en fait, à mettre au vote. Et la saison est élaborée en fonction du plus grand nombre de voix pour chacun des sujets. Donc c'est vraiment un comité éditorial extrêmement démocratique.
Et un travail très collaboratif.
Et un travail très 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 collaboratif.
Merci beaucoup Agnès. Donc petit rappel, ce jeudi, Brasserie Le Dôme, 20h30.
Tout à fait.
Et tout est bon.
Tout le monde arrive, essayez d'arriver 5 minutes avant, ça permet de prendre une place sympathique, de se poser et d'attendre l'ouverture au public à 20h30 et on clôture à 22h.
Merci beaucoup, on se retrouve le mois prochain pour la prochaine annonce du Bar des Sciences.
À très bientôt.
Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Alice Rollet pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science, la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ses mots.
Allume la science.